Il est une profession souvent bien méconnue, c'est celle des inventeurs. Ce sont pourtant à eux que nous devons toute notre modernité, et sans leurs précieuses contributions, nous en serions encore à rôtir des cuisses de mammouth au fond d'une grotte mal ventilée. Cette semaine, nous réparons cette injustice en brossant le portrait de certains d'entre eux qui, dès l'invention de l'électricité, se dévouèrent à la faire chanter. Les hommes dont nous allons parcourir la vie viennent de Saint-Pétersbourg, New York, Ottawa, Paris ou Osaka, et tous, au cours du siècle dernier, ont voué leur existence à marier la musique à l'électricité avec leurs instruments visionnaires et une obstination qui n'appartient qu'au fou du son.
La série musicale Laurent de Wild, Les fous du son.
Aujourd'hui, les grands oubliés.
The music you are listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises Incorporated.
Jusqu'à présent, nous avons raconté l'existence de grands hommes dont les travaux fondateurs nous parlent encore aujourd'hui. Thérémine, Marteneau, Amonde, la présence de leurs noms sur des instruments qui peuplent les studios et les conservatoires perpétue leur succès et leur offre un ticket pour l'éternité. Mais il y a derrière eux une foule de savants, musiciens, chercheurs ou affairistes qui ont chacun, par leur obsession solitaire, repoussé de façon spectaculaire les limites de la maîtrise du son. Manque de chance, d'aptitude, de clairvoyance? Malgré une obstination sans faille et une vision de l'avenir hors du commun, nombreux sont ceux qui ont sombré dans l'oubli. C'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux hommes très singuliers. Le premier s'appelle Harry Warnow. Il est né à Brooklyn de parents immigrés ukrainiens en 1908 et comme son grand frère, il démontre très jeune une grande aptitude à la musique. Il apprend le piano et fait de rapides progrès. Mais il n'y a pas que le clavier dans sa vie. C'est un esprit très curieux de tout, surtout des choses mécaniques. Après son bac, il se destine donc avec appétit à une carrière scientifique, mais c'est compté sans son frère Marc, violoniste accompli, qui s'y oppose formellement. Il lui offre un piano Steinway, il fera le conservatoire. C'est un peu le monde à l'envers. Tourner le dos à un avenir d'ingénieur pour épouser la vie d'artiste. En petit frère obéissant, Harry se plie donc aux exigences familiales et le voilà diplômé à 22 ans de la Juilliard School of Music. Il se trouve que nous sommes en 1931. L'Amérique est frappée de plein fouet par la crise et Harry commence à comprendre que son frère Marc n'avait pas eu tout à fait tort. Ce dernier a en effet accédé à la direction de l'orchestre de la radio CBS sur l'émission Your Hit Parade, et ce secteur d'activité est l'un des rares à avoir échappé au désastre. Plus que jamais, les gens ont besoin d'entendre de la musique à la radio qui les aide à passer ces temps difficiles.
The more I'm with you, the more I can see my love is yours alone. You came and captured a heart that was free. Now I've nothing I can call my own.
Poussé par Marc, Harry Warnow se trouve rapidement dans des petits boulots à la radio et finit par s'imposer lui aussi à CBS comme pianiste titulaire. L'argent rentre, le métier lui plaît. mais l'inventeur en lui bouillonne et rapidement, il dépense toute sa paye en matériel d'enregistrement divers et commence à fabriquer lui-même ses micros. Son appartement à Brooklyn est testé en permanence pour ses effets acoustiques naturels. Pour les sons mats et rythmiques, le placard. Et pour une jolie réverbération, il y a toujours la salle de bain. Il enregistre à tout bout de champ, sur des disques, n'oublions pas que la bande magnétique n'existait pas encore, sur lesquels il grave des conversations, des idées musicales, des bruits divers de voitures passant dans la rue, et les galettes, soigneusement classées, commencent à s'empiler chez lui. Son obsession devient de plus en plus coûteuse. Il lui faut faire rentrer de l'argent. En 1936, il propose donc au producteur de l'émission Saturday Night Swing Session de lui écrire un répertoire original et lui amène quelques mois plus tard une composition intitulée The Toy Trumpet. Dès la première diffusion, c'est un tube. Il le présente à la tête de son orchestre, le Raymond Scott Quintet. Il dit avoir trouvé le nom de Raymond Scott dans un annuaire de téléphone. Il en aime la consonance et le rythme. Il s'agit pour lui de faire oublier ses origines étrangères et de se fondre au mieux dans le fameux melting pot américain. L'engouement du public est immédiat. Et le pianiste signe avec Columbia Records un contrat d'enregistrement qui lui fera vendre en cette fin d'année des années 30 plusieurs millions de disques. Les titres de ses compositions sont souvent loufoques. Musique pour le dîner d'un troupeau de cannibales affamés, danse de guerre pour indiens en bois, le batteur-joueur, un boy scout en Suisse ou dans une salle de dessin au XVIIIe siècle. Ses compositions sont tirées au cordeau. C'est le son du jazz, mais on n'improvise pas. Il s'agit plutôt d'une succession de petits jingles qui semblent véhiculer 20 émotions différentes à la minute. Rapidement, il reçoit un coup de fil d'Hollywood. « On aime votre quintette, ça vous dirait de faire de la musique de film ?» Une telle occasion ne se refuse pas, surtout quand on est jeune marié avec bientôt une famille à nourrir. Aussi déménage-t-il sur la côte ouest en 1937 et commence à travailler pour les studios de cinéma. On voit même son orchestre qui apparaît dans plusieurs longs métrages avec de très beaux plans sur tous les autres instrumentistes, sauf lui. Le pauvre est très timide et refuse d'apparaître à la caméra. Un comble pour Hollywood. En fait, il se sent très mal à l'aise dans ce paradis des apparences, aux règles desquelles il n'aime pas se plier. Lui, ce qu'il aime, c'est bricoler dans son atelier et composer de la musique, pas faire le guignol devant une caméra avec un fez et des moustaches. Ce qui, à son grand âme, est une pratique générale à Los Angeles et, pire encore, une des conditions élémentaires du succès. Une année après son arrivée, le voilà donc reparti pour New York, où son orchestre s'installe à CBS avant de prendre la route pour une tournée triomphale dans tout le pays.
The Penguin.
On peut comprendre le succès du Raymond Scott Quintet à l'époque. Transposé dans un monde musical contemporain, sa musique continue d'inspirer des artistes très divers, comme Sol Coffin, dont on reconnaît sans peine les influences scottiennes, dans le titre « Disseminated » que voici. «
goat shooter. Once a tin can, the goat shot out. I was a fourth of Dan. I like an apple. I like a square cut. I like a funny car. I like a monster truck. Call a bop and a bun stomach. Cocoa mop, I stop nothing. Plummet, blood on top, like eat the chocodile. Call a bop and a bun stomach. Cocoa mop, I stop nothing. Plummet, blood on top, like eat the chocodile. And ever since then I got disseminated. And ever since then I got disseminated. And ever since then I got disseminated. Well, it's a self-fulfilling prophecy. The Jupiter moon, I got disseminated. The Jupiter moon, I got disseminated. The Jupiter moon, I got disseminated. Well, it's a self-fulfilling prophecy. And ever since then I got disseminated. And ever since then I got disseminated. And ever since then I got disseminated. Well, it's a self-fulfilling prophecy.
Son expérience à Hollywood l'a convaincu d'une chose, il ne s'aime pas. Comprenant que son avenir dépend malgré lui de son apparence, il se fait refaire le nez, qu'il avait pourtant beau et fort, et change officiellement son nom. Harry Warnow n'existe plus, bienvenue à Raymond Scott, musicien et inventeur. Côté musique, son ascension continue, et la compagnie Warner lui propose de lui acheter des parties de son catalogue pour illustrer ses nouveaux dessins animés, les Looney Tunes. C'est ainsi que pendant des décennies, on entendit derrière les aventures de Bip Bip et Le Coyote des musiques de Raymond Scott. La plus célèbre est sans doute son thème Powerhouse, qui, dans quasiment toutes ses animations, préfigurait l'accumulation de catastrophes imminentes et désastreuses. Vous la reconnaîtrez sans peine. Ça y est, Raymond Scott a enfin les moyens de ses ambitions, ou plutôt de ses inventions. En 1946, il réalise son rêve et ouvre son endroit à lui, le Manhattan Research Studio, où il entasse le matériel accumulé depuis deux décennies. Il faut comprendre qu'à l'époque, si on voulait avoir un studio, il fallait absolument tout fabriquer soi-même, en matière de consoles d'enregistrement, de haut-parleurs, de micros, de casques, de câbles. C'était une entreprise qui mobilisait des moyens financiers et humains considérables. Mais Raymond Scott a mis le paquet. Et le prospectus qui propose la location vante, je cite, « le studio le mieux adapté au monde pour la création de musique électronique et de musique concrète ». Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il s'installe jour et nuit dans son nouveau paradis et commence à mettre au point l'œuvre de sa vie, l'électronium. Son ambition est de construire un instrument électronique qui peut non seulement produire des sons, mais également générer des mélodies, des harmonies et des formes entièrement aléatoires. Pas de clavier, juste des boutons. Une impulsion du compositeur et c'est parti. La machine compose, joue, improvise, tout en suivant les inflexions exercées quand on le désire. C'est un projet magnifique qui nécessite de hautes compétences d'ingénieur et de compositeur. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Pour y arriver, il va devoir concevoir et fabriquer divers éléments indépendants qu'il va petit à petit assembler en une seule machine, et c'est ce qui va l'occuper le plus clair de la décennie suivante. Tout a commencé lorsque sa fille l'a emmené voir un spectacle joué au Térémine, au Radio City Music Hall, et le supplie de lui en offrir un. Ce qu'il fait, pour récupérer l'instrument quelques mois plus tard, lorsqu'elle s'en est lassée. Pas mal, se dit-il, mais beaucoup trop rudimentaire. Et comme tous les inventeurs devant le travail de leurs collègues, il ajoute « Je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux ». Et il se met au travail. Tout en conservant son job à la radio, il crée ce qu'il appelle le Jingle Workshop, un atelier destiné à produire des musiques de pub avec les machines qu'il est en train de fabriquer. Nous sommes au début des années 60 et comme vous pouvez l'entendre, l'incroyable futurisme de son imaginaire électronique commence à envahir les ondes publicitaires américaines. What do you call a pair of eyes that sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. How do you show those teasing lips so they dazzle and shine? His heart does flips. The name of the game is Lightworks. How do you blush so shyly and make it linger yet boldly polish your ring finger? The name of the game is Lightworks. Lightworks is the game girls play when they want someone to say the name of the game is you. Nous sommes à l'époque où Raymond Scott est au sommet de sa créativité. Il conçoit pour les distributeurs automatiques des petites unités sonores identifiant une marque et qui se déclenchent quand on met une pièce. Il développe le Videola, une console de mixage qui permet de jouer et d'enregistrer de la musique sur l'image en parfaite synchronicité. Il invente même le fax, mais ne dépose pas de brevet. Mais surtout, il avance dans la fabrication de son électronium, dont il imagine des propriétés de plus en plus vastes. C'est ainsi qu'il a inventé, au milieu des années 50, le principe de séquence électronique répétitive avec sa Circle Machine, une révolution incalculable dans l'histoire de notre musique qui ne déviera plus de ce chemin. Jugez-en par ce travail en studio qui date de 1957.
That's the one. That's the step number one. Now this is number two. This is three.
Raymond Scott invente et compose à tour de bras, mais il ne manifeste aucun intérêt pour la commercialisation de ses instruments. L'argent nécessaire à ses recherches, il le trouve dans le milieu de la musique commerciale où il a toujours évolué et qui a été fort généreux avec lui. Fonder une société, bâtir une usine, développer une stratégie commerciale sont des activités auxquelles il ne comprend rien et le détournerait de toute façon de ses précieuses recherches. On dira, mais qu'il confie la commercialisation à quelqu'un d'autre. Mais voilà, Scott est extrêmement méfiant. Il a une peur bleue de se faire piquer ses inventions. Il a raison, son travail est incroyablement précurseur pour son époque, mais d'un autre côté, il risque de lui arriver ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il renonce à occuper une place centrale dans l'histoire de la musique, en se contentant de savoir qu'il avait 15 ans d'avance sur tout le monde, ce qui est une maigre consolation. Pourtant, le destin frappe à sa porte en la personne de Berry Gordy, fondateur du fameux label Motown. Le jeune homme a fondé son empire sur une nouvelle vision de la musique et l'électronium de Scott le fascine. Au moment où la Motown sortait ses premiers tubes, l'inventeur produisait de nouvelles mélodies avec son instrument magique et on comprend que le jeune producteur n'y soit pas resté insensible. En témoigne cet enregistrement de 1959 que Scott a appelé Cindy Electronium. Passé depuis ce titre avant-gardiste et Gordon Berry est à la tête d'une immense compagnie. Raymond Scott, quant à lui, est rentré progressivement dans une vie d'isolement. Plusieurs crises cardiaques l'ont forcé à abandonner ses rémunératrices sessions à la télé et il s'est enfoncé de plus en plus loin dans ses recherches solitaires et coûteuses. Malgré son incessante productivité, l'argent se fait de plus en plus rare. Et lorsque le fondateur de la Motown l'appelle en 1970, c'est une bouée de sauvetage qui tombe du ciel. Il accepte et déménage l'année suivante à Los Angeles où Gordon Berry a décidé d'implanter ses nouveaux bureaux. Berry est persuadé que l'électronium peut lui servir de laboratoire de recherche pour accoucher de rythmes et de mélodies inouïes. Il lui assigne une pièce laboratoire où l'inventeur va pouvoir continuer ses recherches. Et il n'est pas rare que le jeune Michael Jackson, après une longue journée de studio, passe quelques heures dans un coin de cette caverne d'Ali Baba à écouter les sonorités de la musique de demain. Cinq ans plus tard, la machine n'a pas tenu ses promesses. Il faut dire que Raymond n'arrête pas de la démonter, recâbler, réassembler, dans une fuite en avant, vers une perfection qui toujours lui échappe. Et chaque fois que Gordy pousse la porte du laboratoire, c'est pour tomber au milieu d'un embrouillamini de fils et de modules qui, éparpillés au sol, ne produisent pas le moindre son. D'un commun accord, c'est la fin de l'aventure. Scott retourne à New York et construit un nouveau studio. Mais des crises cardiaques à répétition le plongent petit à petit dans une hébétude dont il ne sortira plus. Tout le monde a oublié Raymond Scott. Et quand il quitte ce monde à l'âge de 85 ans, l'électronium en perpétuel devenir est abandonné à son sort et c'est le cofondateur du groupe Devo, Mark Mothersbaugh, qui le rachète à sa veuve et entreprend de le restaurer. Mais certaines parties sont manquantes, il n'y a ni fiche technique, ni mode d'emploi, et il semblerait bien que Raymond Scott ait emporté le secret de son électronium dans la tombe. Pour conclure la première partie de ce récit, j'aimerais vous proposer maintenant une pièce qu'il a écrite avec le tout jeune Jim Henson, génial fondateur des Muppets, et qui illustre en musique et en paroles le voyage intérieur de l'inventeur dans son propre cerveau, son testament spirituel en quelque sorte. Voici donc Limbo, The Organized Mind.
You know, I've learned to walk around inside my own head. Now, that may sound silly to you, but it's been very, very helpful to me. Let me show you how it's done, in case you want to try it. Now, first I have to close my eyes. And then I go through certain mental configurations. And by this means I can dissolve through the outer epidermal layer, like this, and several other layers here. There. Now when you first come to the brain, you have to pass through the medulla oblongata. That's where things like breathing and the heartbeat and glands are controlled. It's kind of like plumbing. It's not very interesting. But if you keep going, you cross into the cerebrum, and that's where all your thoughts are. You know, when I first came to my cerebrum here, there were thoughts scattered all over. The place was a mess. Old mathematical formula, bits of poetry, and telephone numbers were all mixed up together. It was terrible. Over the years, I've been able to organize. Now, in this part of my brain, for instance, I keep thoughts about my family. There goes some family thoughts. That's a great family. There's my wife, parents, my Uncle Ray. There goes Cousin Barbara. My nephew Evan, Uncle Charlie. Oh, Uncle Charlie. We can't stand each other. I've been meaning to refile him under enemies. Now, those are some of my family thoughts now. On the other hand, over here, in this part of my brain, I've got my scientific thoughts, mathematics, physics, thoughts on astronomy. But to tell you the truth, I never was very good at science. Anyway, I think you get the idea. Say, now that we're here, let me show you some of my good thoughts. I have a special section of extra good thoughts that I'm very proud of. They're right over here. Oh, yeah. Lovely. That's a nice thought. Isn't that beautiful? Of course, I've got some evil thoughts, too. I guess everybody does. Hey, you want to see my evil thoughts? I keep them over here, in this part of my brain. They're greedy thoughts. Gluttony. Hate. Lust. Well, that's enough of that. Let's go into something nicer. I've got a great collection of personal memories. They're right over this way. And oh, I almost forgot. To get to that part of my mind, we have to pass through another area. My fears. It's a little scary, but we'll go fast, okay? I think you can see how organizing your brain like this can be very helpful. We're getting to the fears. I hate this part. Oh, boy. Gee, oh, spiders, man. I hate spiders. That one really gets me. Oh, brother. I wish we could get rid of that one. I'm glad that's over with. At least there's an advantage to lumping all your fears together so they don't get mixed up with other things. Anyway, here we are in my personal memories. There, that's the house I grew up in. Oh, there goes Mary Lou, my first girlfriend. And here's a circus I saw as a kid. Oh, that's a little fear. I must have gotten out of place somehow. I'm sorry about that. But here's a cottage where we spent summers. We'll mix up there. There's the high school when I was... Oh, boy. Now, something's going wrong here. No, what's that? No. This is all wrong. It's not supposed to... Oh, no. I'm out of control here. No. I gotta get out of here. Well, I wonder if it would help if I filed things alphabetically.
Les fous du son. France Culture, la série musicale par Laurent de Wild.
Il est temps maintenant pour nous de parler d'un autre grand oublié. Celui-ci est né au Canada, dans l'Ontario, en 1914. Il descend d'une famille d'immigrés protestants et il s'appelle Hugh Lecane. Son père est ingénieur et sa mère institutrice et la famille, qui s'élargit 3 ans plus tard à une petite fille, connaît une vie heureuse et paisible. Très vite, le jeune Hugh donne les signes d'une grande précocité musicale. En apprenant le piano, il découvre qu'il est né avec l'oreille absolue. une particularité neurologique qui permet d'identifier à la perfection la hauteur de tous les sons entendus et de les retranscrire sans effort en notes sur un clavier. Encore mieux, le soir d'un spectacle de fin d'année où il doit remplacer au pied levé le pianiste indisposé, il interprète la partie entendue en répétition sans la moindre faute et sans partition. Il a 10 ans et apprend avec surprise qu'il est également doté d'une hypermnésie musicale qui lui fait se souvenir à la perfection de tout ce qu'il entend. C'est également un bricoleur forcené. Tout ce qui est électrique le fascine. Aux mêmes fêtes de fin d'année, il découvre rapidement qu'en branchant un fer à repasser sur le circuit des éclairages de scène, il peut faire varier l'intensité des lumières avec le gradueur du fer, et il trouve ça vraiment très marrant. Et quand il est question de choisir une orientation universitaire, la réponse est claire, ce sera la science. Hugh est un excellent pianiste, mais trop fantaisiste dans ses interprétations pour supporter le carcan de l'enseignement traditionnel. Il ne s'y sent pas à l'aise. Il se voit plutôt en études d'électronique appliquée, mais nous sommes dans les années 30, c'est beaucoup trop tôt. Alors, il se rabat sur la physique nucléaire, très en vogue à l'époque, dans laquelle il voit d'ailleurs des correspondances avec la musique. Ça tombe bien. En 1939, Hugh Le Cain obtient son master en ingénierie physique et rejoint le National Research Council, le CNRS canadien, lequel se tourne bien entendu vers l'effort de guerre et assigne Le Cain aux recherches ultra secrètes sur le radar. Sans surprise, il y révèle une intelligence hors cadre qui lui valent le respect admiratif de ses collègues et supérieurs. À la fin de la guerre, il continue donc dans cette discipline, tout en prolongeant ses recherches personnelles qui tournent autour de la même idée depuis plusieurs années. Car son rêve d'inventeur, c'est de fabriquer un instrument électronique aussi sensible qu'un violon, sauf qu'on le contrôlerait avec un clavier, comme les ondes Martenot, mais en mieux. En effet, avec les ondes, la main gauche est mobilisée pour exprimer les nuances d'attaque du son. Or, ce serait quand même plus pratique d'exprimer ces nuances à la main droite, celle qui joue. Et c'est ce que propose Le Cain de réaliser. Un clavier sensitif. Car jusqu'à présent, les divers claviers électroniques fonctionnent sur le même système que l'orgue. C'est-à-dire, on appuie, ça fait du son, on lâche, ça n'en fait plus. On, off. Mais le piano, avec son clavier sensible qui peut exprimer 1000 dynamiques différentes, n'est pas l'instrument roi en musique classique pour rien. Le Cain veut la même chose en électronique. Un clavier sur lequel on peut nuancer et l'attaque et le volume. Et puisque la main gauche est libre, pourquoi ne pas lui offrir la possibilité de changer le timbre et la matière du son en même temps qu'on le joue ? Il conçoit alors une sorte de rondelle magnétique de la taille d'un CD sur laquelle on promène son doigt pour modifier à sa guise les formes d'ondes, donnant ainsi au son joué une expressivité et des couleurs surprenantes. En 1946, un premier modèle de cet instrument magique voit le jour et avec son humour inimitable, en référence au nom d'un trombone médiéval, Le Cain le baptise le sac-bout électronique. Le résultat est sidérant. Je laisse à l'inventeur le soin de vous faire comparer deux fa dièses jouées par un vrai violon, suivies des deux mêmes notes jouées par son sac-bout, avant d'entamer une pièce à quatre voix dont vous jugerez de la musicalité.
The four parts played together sound like this.
L'imitation n'étant qu'un exercice comme les autres, Le Cain ne se contente pas de copier les timbres d'instruments existants. Il est résolu à faire de son sackboot un soliste à part entière, comme on peut l'entendre sur ce petit blues futuriste et détendu. Pour continuer à travailler sur les radars tout en perfectionnant son instrument, Le Cain doit s'organiser. En effet, il s'est aperçu qu'après 4 heures de travail et de réflexion intense, il n'était plus bon à rien et n'arrivait pas à récupérer avant le lendemain. Trop de distractions et de temps perdu. Conclusion, faire arriver le lendemain plus vite. C'est-à-dire 4 heures de boulot, 4 heures de tâches de survie quotidienne et 4 heures de sommeil. Et de recommencer comme ça en faisant passer de 24 à 12 heures son cycle quotidien. Génial ! Aucun temps mort ! Fort de cette organisation, il obtient en 1952 son doctorat en physique nucléaire, mais il est clair que, pour ses directeurs de recherche, il est plus intéressé par la musique que par l'atome. Et il consent à mettre à sa disposition un laboratoire de musique électronique où il pourra continuer ses expérimentations à plein temps. Et ce qui est bien avec un organisme d'État qui travaille dans le nucléaire, c'est qu'on peut vraiment obtenir plein de matériel sans beaucoup de difficultés. Pourquoi se gêner ? Il commande un ensemble de 99 oscillateurs et applique ses expériences avec entrain. Progressivement, son écriture musicale se complexifie et bascule dans des recherches de timbres et de rythmes très abstraits, comme vous pourrez en juger dans cette pièce de 1956 intitulée tout simplement « 99 Generators ». Hugh Le Cain a depuis longtemps entendu parler de Pierre Schaeffer et de ses travaux sur les bandes magnétiques au sein du groupe de recherche musicale à Paris, et il poursuit depuis le Canada une évolution similaire. Il développe toutes sortes de techniques originales d'enregistrement, avec notamment plusieurs bandes magnétiques synchronisées dont il modifie les vitesses de défilement indépendamment les unes des autres. C'est ainsi qu'il écrit une pièce construite autour d'un seul son, celui d'une goutte d'eau qui tombe dans un évier, dont il décline toutes les variantes pour en faire la symphonie aquatique que voici. National Research Council commence à demander des comptes. A-t-il produit quelque chose d'intéressant qui pourrait se breveter ? Ah, mais bien sûr, dit-il, mon clavier sensible est une amélioration considérable. Rendez-vous est pris avec la très influente marque de piano Baldwin, toujours à l'affût de nouveaux marchés. En rencontrant Le Cain, les hommes d'affaires comprennent qu'ils sont tombés sur un esprit supérieur et lui proposent immédiatement de travailler pour eux. Ce qu'il refuse platement, préférant le confort de son statut de fonctionnaire. Son invention, faute de motivation de part et d'autre et gérée par une administration canadienne peu rompue aux pratiques commerciales, ne sera malheureusement jamais exploitée. Mais il s'en fiche car il continue ses recherches et mène sa vie comme il l'entend. Chez lui, le rez-de-chaussée est en fait une seule grande pièce, à l'exception de sa cuisine-bibliothèque. C'est tout ensemble son labo, sa chambre à coucher, son bureau, son garage à moto, sa salle de bain, son dressing et son atelier. Tous les murs sont peints en noir. C'est pratique, comme ça on peut écrire à la craie dessus les idées qui viennent. Les rideaux sont toujours tirés, car selon ses dires, l'éclairage du jour est trop variable pour qu'on puisse compter dessus quand on travaille. Pas d'interrupteur pour les ampoules, mais des fils tendus à 2 mètres de hauteur qu'il suffit de tirer pour allumer n'importe quelle lampe, n'importe où dans la maison. Il y est très heureux. Et quand il en a marre, il sort sa moto Vincent 1000 cm3 pour parcourir à tombeau ouvert les vastes espaces canadiens. Mais plus les années passent et plus le National Research Council se lasse de ses expériences dont ils ne comprennent résolument pas l'importance et réduisent progressivement ses crédits. En 1974, le labo doit fermer et Le Cain démissionne. Il est jeté comme un vieux papier. 2 ans plus tard, il glisse en moto sur la route de Montréal et, après avoir flotté 1 an entre la vie et la mort, il rend l'âme en juillet 1977. Comment se fait-il que Raymond Scott et Hugh Le Cain n'aient pas connu une célébrité à la mesure de leur génie ? La réponse tient sans doute au fait que l'un comme l'autre étaient avant tout des compositeurs-chercheurs. Les instruments révolutionnaires qu'ils construisaient n'avaient comme finalité que d'exprimer leur propre musique. Vendre en masse l'objet de tous leurs désirs et de toutes leurs attentions leur semblait aussi incongru que de vendre leurs propres enfants. Néanmoins, comme nous le verrons demain, leurs travaux n'étaient pas perdus pour tout le monde. Thank you. Alors, pour parler de cette folie du son, nous avons aujourd'hui comme invité Selma Rangel, musicien, compositeur et grand bidouilleur devant l'éternel. Merci Selma d'être venue aujourd'hui.
Bonjour. Ami de la pompe à dessouder et de la clé de 12.
Alors, nous allons écouter une de vos réalisations et en parler tout de suite après.
On y va.
Ça y est, je me brûle, pas le temps d'y penser, faut entrer en scène.
Alors les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à quoi?
J'enfile vite mes habits, mon vieux costume à couleur incertaine.
Dites donc, vous montrez pas, faut pas qu'on vous voie.
Je suis le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé.
Il est le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé.
Le rideau va se lever.
À ta place, ne bougez pas, taisez-vous les gars.
Dans 10 secondes, on va commencer, cachons vite nos bières.
Qu'est-ce que vous foutez avec vos verres? Rangez-moi tout ça.
L'idole vient d'entrer dans son habit de lumière.
Poussez-vous les gars, ne vous montrez pas, faut pas qu'on vous voie.
Je suis le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé.
Il est le musicien qui restera toujours derrière celui qui est le premier, l'idole de la télé.
Alors Selma Rangel, cette chanson, c'est votre histoire?
C'est totalement autobiographique, bien sûr. J'ai pas pu écrire. À l'époque, j'avais fait le texte et j'ai pas pu écrire un truc qui pouvait pas être ressenti. Donc j'ai fait cette histoire du musicos qui est toujours derrière l'idole. Et je crois que j'ai fait un des titres les plus longs de l'histoire de la chanson pour histoire d'emmerder les présentateurs de radio à l'époque.
Mais pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, Selma. Alors j'ai une question à vous poser, c'est quoi bidouiller pour vous?
On pourrait dire par exemple, pour suivre le fil de l'émission qui a été sur lesquels on est parti depuis tout à l'heure, j'ai commencé à bidouiller. Pour commencer, mon père m'a offert un poste de radio à monter quand j'avais 3 ans. Ça commençait très très mal. J'ai jamais pu le faire. J'ai commencé vraiment à monter mes premiers trucs. J'avais 9-10 ans à peu près. Voilà. Et pour parler de la bidouille par rapport à la musique, je me souviens avoir vu un jour une invention qui s'appelait une pédale wah-wah, par exemple. Et je me suis dit, c'est ça une pédale wah-wah? Allez, j'en fabrique une. Je savais absolument pas comment ça se faisait. J'ai inventé une pédale wah-wah qui avait rien à voir avec le système original, mais ça marchait. De la même façon que quand j'ai vu apparaître les premiers séquenceurs dans les années 68-70, j'ai vu une photo d'un séquenceur, je me suis dit, c'est ça un séquenceur? Allez, j'en fabrique un.
Alors, on explique pour nos auditeurs et auditrices ce que c'est qu'un séquenceur.
Un séquenceur, on en a entendu une bonne dizaine.
Un petit paquet,
Dans les minutes qui précédaient. Et le séquenceur, c'est un système qui permet de mettre des notes en boucle, de dougoudougoudougoudougoudougoudougoudou, des trucs comme ça, voilà. Et donc, j'ai fabriqué mon premier séquenceur et j'ai fait des tas de séances en studio avec ça, parce que j'avais pas de rond à l'époque et il fallait bien se débrouiller pour fabriquer des trucs. Donc j'ai fabriqué mes premiers synthés, mes premiers séquenceurs. C'était de la bidouille, c'était vraiment la bidouille.
Vous l'avez fait à la Raymond Scott, en fait.
C'est un peu ça, oui. Justement, ça, son histoire me rappelle énormément ce genre de parallèle. Il faut se débrouiller, de toute façon on a envie d'une aventure. Ce qui existe déjà ne nous intéresse pas forcément, puisque ça a déjà été créé, ça a déjà été inventé, et on a envie d'autres choses. Par exemple, quand j'étais môme, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça, on avait un groupe, mon frère et moi, mon frère est guitariste, Claude Angèle, qui est connu dans le métier, et moi qui jouais de la batterie, je ne rêvais que d'une chose, c'était de musique sans batterie. Alors j'avais commencé à me fabriquer une batterie électronique, bon, c'était totalement bizarre, ringard et tout, mais je l'ai fabriqué quand même, histoire de pas avoir le même son que tout le monde. C'est de la bidouille.
Et alors, c'est quoi pour vous le secret d'un bon son?
Il n'y a pas de bon son. Il n'y a pas de... Pardon, non. Je l'ai dit à l'envers. Il n'y a pas de mauvais son. Un bon son, c'est un son, quel qu'il soit, qui est bien utilisé. tout simplement. Si on, pour moi, il n'y a pas de mauvais son. On peut inventer, on peut pour n'importe quoi. Tout à l'heure, on a entendu un exemple de petit chef-d'œuvre fait à la base à partir d'une goutte d'eau. Cette goutte d'eau a été bien utilisée. Si on la mettait au sein d'un contexte qui n'est pas intéressant, ça ne donnera rien du tout. Il n'y a pas de mauvais son. Tous les sons sont bons à condition de bien les utiliser. C'est ma définition.
Tout est bon dans le son.
dans le cosson, oui.
Alors, j'ai une question un peu bateau à vous poser. Nous vivons depuis la fin des années 80 à l'ère du numérique. Vous pensez qu'on a perdu quelque chose depuis le son analogique ?
Écoutez, je vous ai fait parvenir, puisqu'on a été en contact un petit peu avant, je vous ai fait parvenir deux œuvres qui sont de un Américain à Paris, de Gershwin. Et il y en avait une, qui date des années 40, je crois, 43, un truc comme ça. Et il y en a une autre qui est beaucoup plus récente. Et personnellement, je préfère nettement l'interprétation et la prise de son des années 40, parce qu'il fallait se donner du mal à l'époque, alors que le numérique facilite tellement les choses qu'on en oublie d'aller chercher la racine de la matière du son, la vraie matière. On dit toujours c'est tellement parfait qu'on verra au mix, quoi. Bon, ça c'est pour les disques. Eh ben non, c'est pas vrai. Le son, il est au départ, la première prise est souvent la bonne. Le son doit être restitué tel que le musicien le joue, ou enfin il faut lui donner son âme dès le départ, voilà. Et le numérique rend les gens un petit peu feignants, je trouve. Je l'utilise aussi, évidemment, comme tout le monde, mais ça rend un petit peu feignant, quoi.
Alors, vous êtes bidouilleur depuis quasiment le
professionnel,
berceau,
professionnel,
voilà.
Bidouilleur.
Et c'est quoi votre moment préféré dans la bidouille?
Quand ça marche. Ouais, ça c'est pas facile. C'est-à-dire que je me suis même monté un laboratoire d'électronique, puisque j'ai fabriqué des consoles, des amplis de guitare, du matériel à une époque, etc. Et j'ai toujours eu la passion de l'électronique liée à la musique. Je passe des heures par jour à chercher à faire du son sur la base d'ampli de guitare, par exemple, que je bidouille, que je modifie. C'est une vraie passion, hein. Je passe des heures devant des schémas tous les jours. Et quand on a envie de... Quand on cherche un résultat, au moment où on obtient ce résultat, même s'il n'est pas parfait, c'est vraiment une grande satisfaction. C'est l'aboutissement d'un rêve. Et c'est un rêve qu'on perpétue tous les jours, pratiquement, hein.
Et oui, alors dans les musiques que vous nous avez amenées aujourd'hui, il y a un titre de Cassave que nous allons écouter, et vous avez un secret à nous révéler, mais dans quelques instants.
One way.
Sous-classé, c'est le médicament, nous n'y. Ça, comme ça. la ville, la reine, qui j'en a fait pouper celle qui est bête. Sous-classe et celle médicament nouni. Sous-classe et celle médicament nouni. Sous-classe et celle médicament nouni. Sous-classe et celle médicament nouni.
Alors le secret n'est pas encore révélé, c'est le Marangel et nous allons reprendre notre discussion en attendant son arrivée parce que c'est un son très particulier, n'est-ce pas, qui a sa, son historique. Bah, peut-être vous pouvez déjà nous le présenter. Le voilà, il est là, il arrive. C'est pas encore lui.
C'est le son de Senza qui fait un riff qui a fait le tour du monde. Et ce riff a été fait sur la base d'une lame de couteau appuyée sur le bord de la table. Il fait un boing, boing, doing, doing, comme ça, qui a été samplé dans un dispositif qui n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de sampleur encore à l'époque. Donc, j'ai samplé cette lame de couteau et on l'a fait rejouer le clavier de Kassav, Jean-Claude Nemrot, qui est un virtuose. A pu redéclencher ce riff de Senza qui était sur la base d'un couteau de cuisine, quoi, tout simplement. Voilà. Et évidemment, on l'entendra pas aujourd'hui. C'est celui-là, voilà. C'est pas grand chose.
Alors ça, c'est un couteau sur une table de cuisine.
C'est un couteau sur un bord de table comme ça, qui a été samplé dans une machine et rejoué avec sur la base d'un Odyssée transformé à l'époque. Voilà.
C'est de la bidouille.
Mais de la bidouille, il y en a eu des milliers comme ça.
De la bidouille, magnifique. C'est le Marangel. Je regrette que nous soyons déjà obligés de nous quitter alors que vous ne commencez qu'à révéler un seul de vos multiples secrets.
Hélas,
voilà, nous devons bientôt rendre l'antenne. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre venue.
C'est
et
trop un plaisir.
D'avoir levé le voile sur quelques-uns de vos mystères.
Voilà.
À la prise de son, nous avions Jean-Guilain Meige, à la documentation musicale Romain Couturier et à la réalisation Marie Placet. Enfin, à celles et ceux que le sujet intéresse et qui voudraient en approfondir la connaissance, je ne peux que recommander la lecture de mon ouvrage « Les fous du son » paru l'année dernière aux éditions Grasset. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain pour le 4e épisode de cette série avec les prophètes débonnaires Bob Moog et Don Buchla en présence du moogiste émérite Benoît Widmann.